Africa.
9h-10h, le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa numéro 1.
Le plus de la grande matinale, on va parler donc des bébés gris, hein, c'est la deuxième partie, les changements de la loi en matière de régularisation. Nous continuons sur le thème de la semaine dernière hein, qui a suscité beaucoup d'intérêt et des questions, chers auditeurs. La nouvelle loi sur le droit d'asile et le séjour des étrangers en France vient d'entrer définitivement en vigueur. Hein, c'est depuis le 1er mars dernier. Cette loi apporte donc des changements qui compliquent davantage la situation des étrangers en situation irrégulière, communément appelés hein, les sans-papiers. Nous faisons aujourd'hui l'inventaire des changements apportés hein, par cette nouvelle loi sur les possibilités de régulariser sa situation administrative quand on n'a pas ou plus de titre de séjour. On en parle tout à l'heure avec Aliou Tall, notre juriste spécialiste du droit des étrangers en France. Mais d'abord, je vous amène au Mali en musique avec Sidiki Diabaté, I Love You, et juste après, ce sera le droit et nous.
Ni shukora nene mani anya muso yende la via. Ni shukora si moi je ne te vois pas, je suis pas tranquille. Ni shukora nene manga bisou ni kila nete la via. Bébé, la nuit si je ne te vois pas, je suis pas tranquille. Bébé, I love you, baby. Se go ta dera mi bana ni ene yo. I need you, baby. Se go ta dera mi bana ni ene kanu yo. Inyana fine bena, baby. In nostalgia beneka. Mon amour, inyana fine bena.
le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1. Le droit est nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous, c'est oui votre rendez-vous incontournable dans la grande matinale, tous les mercredis. Le droit et nous, on parle du droit, bien évidemment, les changements de la loi en matière de régularisation. Bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
Alors, première question, beaucoup d'auditeurs nous ont appelés pour des questions relatives à l'obtention d'un titre de séjour par la régularisation. Pouvez-vous rappeler les principaux moyens légaux, je dis bien légaux, de régularisation et les changements apportés par la loi, sachant que nous reviendrons en détail sur chacune de ces voies de régularisation, Aliou Tal.
Merci Phil. Et merci d'avoir précisé légaux, les moyens légaux.
Ouais.
C'est doublement intéressant parce que tout ce qu'on dit ici, c'est par rapport aux voies légales.
Mmh.
Et aussi, on conseille aux gens...
Catastrophique.
Piégé, comme on a dit la semaine dernière, une reconnaissance... frauduleuse d'enfants, espérant pouvoir tirer profit de cette reconnaissance, un titre de séjour, une naturalisation, et que finalement on se retrouve piégé par un schéma délétère, un schéma vraiment dégradant humainement parlant, qui fait que la personne va se retrouver dans un schéma aussi pénal. Ça veut dire que sa responsabilité pénale va être engagée.
Mmh.
On avait bien précisé la dernière fois que si vous reconnaissez, frauduleusement un enfant, vous êtes tenu de l'entretenir parce que juridiquement, vous êtes son enfant, vous êtes son papa, même s'il n'est pas votre fils biologiquement, vous êtes tenu de l'entretenir jusqu'à sa majorité. Et même si l'enfant devient majeur, cette obligation continue jusqu'à ce qu'il ait les moyens de pourvoir lui-même à ses besoins. Et parallèlement, le code pénal prohibe cette reconnaissance frauduleuse et vous risquez des peines de prison. Le code des étrangers aussi prohibe cette reconnaissance. Donc, on vous conseille vraiment de faire très attention. Maintenant, ceci dit, on a dit qu'on va privilégier les voies légales. Néanmoins, il faudra aussi dire à la personne, si vous ne faites pas ça, voici ou voilà les voies légales que vous pouvez utiliser.
Mmh.
Si vous êtes en situation irrégulière dans ce pays, que vous n'avez pas de titre de séjour ou bien que vous n'avez plus de titre de séjour, ça arrive assez souvent. Une bonne partie des étrangers en situation irrégulière ne l'ont pas toujours été. Ils ont eu un moment à avoir un récépissé, un titre de séjour pour raison médicale. Ils ont eu un moment à avoir des récépissés parce qu'ils étaient dans une procédure de régularisation ou de délivrance d'un premier titre de séjour qui a été refusé finalement par la préfecture. Il y a des personnes qui ont reçu des récépissés leur permettant de travailler pendant 2 ans et d'un coup on leur dit « Tiens, courrier en recommandé avec avis de réception, votre demande de titre de séjour a été refusée. Vous êtes obligé de quitter le territoire français et parfois avec une assignation à résidence, ce qui peut être très compliqué. Ici, c'est en cas de contrôle, on peut aussi être fait l'objet d'un placement en centre de rétention. Donc, pour éviter ces situations, l'étranger doit prouver soit qu'il a un droit au séjour, soit qu'il a fait une demande de titre de séjour.
Ouais.
D'où l'intérêt, à partir du moment où on n'a pas un titre de séjour, de diligenter toutes les actions utiles vers les bonnes personnes, associations, avocats ou juristes qui vous dirigent après un diagnostic détaillé de votre situation personnelle. Parce que je peux être le même frère de Phil, avoir le même père, la même mère de Phil, être né au même pays, et alors que être venu en France le même jour, alors qu'on n'a pas les mêmes solutions pour être régularisé.
Exact.
Le mimétisme qu'on voit dans certaines communautés est très dangereux. Alpha a fait ceci, Beta va le faire. Mamadou va faire ceci, Aliou va le faire. Ou bien, moi j'ai fait ceci. Il y a des gens, ils sont tellement
imbus. Et parfois, il y a certaines personnes qui trompent d'autres personnes en disant, oh, ça fait 20 ans, je suis en France, t'inquiète pas, je sais comment ça se passe.
Exactement.
Alors que la loi, la loi a changé
depuis longtemps.
Tous les 6 mois.
Ça, c'est très intéressant parce que même un avocat qui se met pas à la page, il devient désuet. Il devient has-been, comme on dit en anglais.
Ouais.
Déjà, un avocat, il a au moins un bac plus 4 en droit. S'il n'est pas spécialiste de la matière et qu'il se met quotidiennement à la page, il ne peut pas vous conseiller utilement. Mais à fortiori, quelqu'un qui a fait...
Un avocat doit se réactualiser, c'est ce qu'il faut dire.
À la page, c'est plus que... Voilà,
selon les changements de loi, voilà, tout le temps.
Et même mieux que c'est réactualisé, il doit anticiper ce que sera le droit de demain. Ça veut dire que s'il veut être vraiment un bon expert en droit des étrangers, il doit suivre toutes les évolutions législatives depuis les négociations au niveau du Parlement pour anticiper ce que sera la loi. Et donc, si à fortiori, l'avocat qui ne se prépare pas ne peut pas le faire, imagine quelqu'un qui a fait ici 20 ans et qui va s'autoproclamer expert en ceci ou en cela et qui, veut donc, qui va donner des conseils. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont fait ici 10 ans et qui vont décourager les jeunes qui viennent d'arriver 1 an ou 2 ans à ne faire rien parce que moi, voilà, j'ai fait 10 ans. Si j'ai fait 10 ans sans papier, qu'est-ce que tu vas faire toi? Non! Déjà, d'une part, chacun a sa vie, chacun a ses songes, et que aussi la situation personnelle de la personne qui vient d'arriver peut lui permettre d'avoir des possibilités de régularisation que la personne qui a fait 10 ans n'a pas. D'autre part, toutes les deux personnes peuvent avoir des possibilités que l'une est disposée à enclencher et que l'autre a été laxiste ou paresseux. Donc, il ne faut pas suivre le mimétisme, ce n'est pas bon. Donc, quelle que soit votre situation, faites l'effort d'introduire une demande pour vous protéger, pour protéger vos arrières, en cas de retenue pour vérification d'identité. Vous pourrez prétendre que vous êtes en cours de régularisation parce que vous avez introduit une demande et qu'effectivement, devant un juge des libertés, votre éloignement sera beaucoup plus difficile. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, comment s'y prendre? On avait abordé la dernière fois une première possibilité qui est prévue par l'article L313-14 du Code des étrangers. Cet article qui prévoit la régularisation pour des motifs humanitaires. On a dit qu'il y a une loi nouvelle qui est entrée en vigueur depuis le 10 septembre 2018. C'est une loi du 10 septembre 2018 qui a été promulguée au journal officiel le 11 septembre 2018 et qui est en vigueur dans toutes les situations imaginées depuis le 1er mars. Parce que cette loi a eu une partie entrée en vigueur depuis le 1er janvier. La loi est définitivement entrée en vigueur depuis le 1er mars dernier. Cet article ne connaît pas un changement conséquent par rapport à l'évolution législative. Donc, on s'en tient aux changements qui ont eu lieu depuis le 7 mars 2016 avec cette loi qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Donc, il n'y a pas de changement concernant la régularisation pour motifs humanitaires. Si vous voulez cette régularisation, il faudra soit prétendre à des motifs humanitaires qui peuvent consister au fait que vous avez vécu ici longtemps. Longtemps, ça veut dire à partir de 10 ans, on considère que vous avez un ancrage solide. Et même à partir de 7 ans, on peut considérer que vous avez un ancrage solide. Si vous risquez d'être dans l'isolement familial dans votre pays d'origine, vous pouvez avoir une régularisation. Aussi, cette loi a été précisée par une circulaire gouvernementale qu'on connaît du 12 novembre 2012 qui indique au préfet, par exemple, qu'une personne qui est ici sans titre de séjour, qui a un enfant scolarisé, peut être régularisée. Si l'enfant est scolarisé pendant 3 ans, c'est pratiquement acquis parce que c'est un process qui est pratiqué depuis longtemps. Oui. Mais cela ne veut pas dire que votre enfant doit nécessairement être scolarisé depuis 3 ans. Ça peut être un enfant scolarisé depuis juste 1 an. Parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme on l'a précisé plusieurs fois. Ça a aussi été précisé au préfet que l'article 3-1 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant dit que dans toute décision des administrations, que ce soit des tribunaux aussi, que ce soit des organismes privés ou publics, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer.
Oui.
Cette disposition a été consacrée dans le corpus juridique français, ça veut dire dans le droit français, le droit positif français, et qu'elle est appliquée par les administrations, les préfectures, elle est aussi appliquée effectivement par les tribunaux. Donc, à ce titre-là, si vous avez un enfant scolarisé, vous pouvez prétendre à une régularisation. Il ne s'agit pas de faire des enfants pour des papiers. On avait dit les bébés gris, c'est pas bon, parce qu'ils vont détecter des indices.
Exactement.
Voilà. Donc, mais quand même, si l'enfant est là, qu'il est scolarisé, au titre du motif humanitaire, vous pouvez être régularisé. Ça peut aussi être un motif exceptionnel d'admission au séjour. Je donne un exemple de Phil le Montagnard ou bien de Phil, je veux dire, de la savane.
Phil de la savane. Phil de la savane.
Oui. Et que ce Phil, par exemple, n'a pas un titre de séjour et que ce monsieur, quand même, malgré sa situation administrative, s'est distingué dans la mouvance associative. C'est un monsieur qui a montré qu'il était dynamique dans sa localité.
Dans la communauté.
Dans la communauté. Ouais. Il participe à des activités bénévoles caritatives avec des églises, avec des organisations caritatives. Il est là au niveau de l'éducation. Il participe à l'alphabétisation des immigrés. Il a assez d'éléments qui vont attester que malgré sa situation administrative, c'est quelqu'un qui relève de dispositions exceptionnelles au regard de son insertion sociale, au regard de sa participation aux activités associatives, aux activités locales. Ça, c'est un motif d'admission exceptionnel. Vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans, ni 2 ans, ni 3 ans.
Si pas ça besoin vous arrive, d'attendre forcément un CDI.
Ah oui, non, du tout. Le critère de l'emploi ne vous est pas exigé. Donc là, c'est plutôt par rapport au motif humanitaire, votre implication. On considère que vous êtes utile pour la société. Donc, soyez utile là où vous êtes. Ne vivez plus en communauté. Recroquevillez sur vous-même et un jour, vous sortez du foyer là. Mon frère, on va aller là-bas, je vais aller à la préfecture. Ça va pas marcher.
Lorsqu'on est par exemple originaire de la République démocratique du Congo, on se renferme que dans sa communauté.
Ah oui, il faut pas aller que dans l'Enganda. Les gens, ils vont sortir, c'est aller dans l'Enganda, ça veut dire les petits peuples là.
On vit Kinshasa à Paris, il faut pas le faire.
Voilà, ça c'est pas mal, il faut le faire, mais il faut aussi s'ouvrir à sa société d'accueil. Je pense que c'est légitime.
Exact.
C'est légitime. Moi-même, je veux dire, ça me choque parfois de voir des étrangers au Sénégal qui ne s'ouvrent pas et qui restent dans leur propre fief.
Dans la communauté sénégalais seulement.
Voilà, je peux le comprendre ça. Ici, des Sénégalais qui restent quand même Sénégalais qui ne s'ouvrent pas, c'est leur droit. Mais il ne faut pas qu'ils tirent de cette situation d'exclusion, d'auto-exclusion, des avantages que la loi ne donne pas. Vous comprenez?
Exact.
Donc, si vous voulez qu'on vous reconnaisse une utilité sociale, qu'on puisse vous régulariser à travers cette utilité sociale. Soyez actif dans vos cercles, soyez actif au-delà de ces cercles, par exemple à travers la communauté directe, la mairie, les associations de quartier et autres. C'est une possibilité de régularisation qu'on ignore souvent et qui est très utile. Aussi, on avait dit la dernière fois, avant de passer aux autres moyens, que le préfet, il est tenu, si vous avez fait 10 ans en France, avant de pouvoir rejeter votre demande de titre de séjour, de saisir la commission des titres de séjour. Et qu'une fois que la commission est saisie, le préfet est tenu de vous délivrer un récépissé vous donnant un droit au séjour. Cela veut dire que si vous avez fait plus de 10 ans et que vous avez reçu un rejet de demande de titre de séjour et que vous n'avez pas été préalablement convoqué devant une commission, ce rejet n'est pas valable. Il faut attaquer systématiquement. Vous pouvez aussi gracieusement saisir le préfet pour lui dire qu'il y a un problème. Ça peut être dû à un encombrement des services administratifs, des services de la préfecture, et vous pouvez faire un recours gracieux pour dire que d'après la loi, vous devriez préalablement donc me présenter à une commission et me délivrer un récépissé. Or, je n'ai jamais reçu de récépissé. Je dis un récépissé, pas le papier qu'on vous donne pour attester que vous avez déposé une demande de titre de séjour. Ce n'est pas un récépissé. Un récépissé qui emporte droit au séjour. Tant que vous ne l'avez pas, toute décision de rejet serait pas valable et pourrait être sanctionnée par le juge administratif. Donc ça, c'est très important à savoir. Maintenant, au titre toujours de la régularisation, il y a d'autres dispositions qui relèvent en l'occurrence de l'article L313-11 du Code des étrangers. En général, quand on voit la situation de quelqu'un, on se plonge sur ça pour voir si on fait un bon diagnostic. Est-ce que cette personne entre dans l'une des catégories prévues par la loi pour pouvoir avoir un titre de séjour? Il en est ainsi si on est enfant d'un enfant étranger âgé de 18 ans, vivant avec un de ses parents depuis 13 ans, depuis votre âge de 13 ans. Sauf dans certaines catégories de personnes qui sont par exemple à l'outre-mer, comme à Mayotte, qui ne sont pas concernées. Si vous êtes aussi étranger, âgé de 18 ans, que vous êtes confié avant que vous ayez l'âge de 16 ans à un service d'aide sociale à l'enfance et que vous êtes bien intégré, vous avez droit à un titre de séjour. Parce qu'il y a des enfants mineurs sans papier alors qu'ils ont pu ou ils ont dû être confiés à l'aide sociale. Dans ce cas de figure, si ce transfert d'autorité parentale a eu lieu avant l'âge de 16 ans et que l'enfant a eu après 16 ans, cet enfant aura droit automatiquement à un titre de séjour à sa majorité. Il en est aussi ainsi de ce qu'on appelle l'admission au séjour du fait de la vie commune effective et affective. Ça veut dire que vous êtes conjoint d'un ressortissant français.
Ouais.
À ce titre, vous êtes marié en français.
D'ailleurs, nous avons beaucoup de questions là-dessus.
Ah, très bien.
Il y a Moussa Kouyaté qui est en ligne, Fofana Amara, Cédric, Monsieur Diaby. Donc, toutes ces questions vont arriver.
On va les aborder. Aujourd'hui, on va faire open mic, micro ouvert. On va répondre à toutes les questions.
Mais par contre, on ne prendra qu'une seule question par auditeur.
Très bien, impeccable. Donc, si vous êtes marié à un Français ou une Française et que, j'insiste bien, vous n'êtes pas en état de polygamie. Ça, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui pratiquent ici la polygamie.
Ouais.
En fait, en droit international, l'État français ou notre État n'a pas le droit de s'immiscer de votre statut personnel.
Ouais.
Ça veut dire que vous avez le droit d'être statutairement, ça veut dire par rapport à votre statut personnel, polygame. Mais vous n'avez pas le droit d'exercer ce statut en France.
D'accord.
Parce qu'en France, on ne peut pas être marié une seconde fois quand on est déjà marié. C'est ce qu'on appelle le délit de bigamie.
D'accord.
Qui n'a pas du tout le même sens que la polygamie.
Alors, il y a eu un cas que je vais souligner sans citer le nom de cet artiste français d'origine congolaise qui s'était marié au Maroc avec une Française et qui a voulu également se marier en France en étant séparé de cette Française sans véritablement avoir divorcé et
sur
a
les
été
papiers.
Justement coincé par rapport au fait qu'il ait demandé la nationalité française et ça n'a pas pu se faire.
Ah oui, en plus, on ne parle même pas d'infraction, c'est un délit. On parle de délit de bigamie, ça veut dire que vous pouvez aller en prison pour ça. Il faut faire très attention. Non seulement le deuxième mariage ne sera pas opposable au tiers, ça veut dire qu'à la société ni à l'administration, mais en plus de ça, vous êtes sous le coup d'une incrimination et d'une sanction pénale. Il faudra faire très attention à ce niveau, parce qu'il y a des Français aussi qui font des erreurs et qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de violer la loi. Mais le cas le plus fréquent, c'est un immigré qui relève d'un statut personnel polygame, il permet d'être polygame au Mali, à Bamako, à Dakar ou bien au Gabon.
Ouais.
Ça peut être au Gabon aussi.
Il a le droit d'avoir 4.
Et donc il peut avoir 4 là-bas. Mais ici, vous ne pouvez vivre qu'avec une femme.
Ouais.
Il s'avère que les gens parfois contournent les règles sur le regroupement familial en faisant venir une femme par des moyens du bord et qu'après, ils se retrouvent tous en polygamie.
D'accord.
J'ai connu une situation, c'était un monsieur qui était très
malin.
Il
y a une femme qui est mariée légalement, officiellement. Et le reste
la
des femmes faire venir, ne sont pas déclarées.
Voilà, par le regroupement familial. Les D'accord. autres, il les a fait venir par le moyen système D. Mm-hmm. Et après, ils ont commencé à faire des enfants.
Ah.
Et que donc, à partir du moment où ces femmes ont des enfants, que les enfants grandissent, à partir de 13 ans, les enfants deviennent français.
Ouais.
Cette dame, en tant que mère d'un enfant français, à l'entretien et l'éducation duquel elle participe à droit de séjour. Mmh. Le problème, c'est que maintenant, comme il y a une polygamie collective, mmh. il y a une sanction collective. Mmh. Ces personnes, on leur donne un titre de séjour visiteur. Ça veut dire que vous êtes là. On vous laisse là.
D'accord.
Mais vous n'êtes pas là en réalité parce que vous ne pouvez ni travailler, ni bénéficier davantage au niveau social. Mmh. Le mari qui avait un titre de résident a été rétrogradé dans un premier temps avec un titre de séjour précaire de un an et ensuite un titre visiteur. Là, ça devient compliqué.
Ouais, très compliqué.
Parce qu'il perd son travail.
Ouais.
Et là, il cause un tort carrément par ricochet à tous ces enfants qui n'ont pas demandé cette situation.
Et à ces femmes.
Donc, il faut faire très attention. Bon, ces femmes, on va dire, mais elles savaient que le monsieur était polygame.
Bah,
donc là, c'est un jugement de valeur.
Elles ont une méconnaissance de la loi.
Mais parfois, même au-delà de ça, elles n'ont pas eu le choix de venir ou de ne pas venir. À ce niveau, là, je vous rejoins. Parce que parfois, une fois qu'elles sont mariées, on dit, allez, à gauche. Là, toi, tu vas à Bamako. Toi, tu vas à Kaï. Toi, tu vis à Paris. Effectivement, il y a quand même des préjudices à ce niveau-là qu'il faut quand même dénoncer.
Alors, nous allons donc marquer une pause avant de prendre les questions des auditeurs, avant de prendre vos questions. Vous êtes déjà très nombreux au 0155 07 58 00. C'est le droit et nous. On marque une pause et on revient juste après.
Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aloutal, sur Africa numéro 1.
Le droit et nous, deuxième partie avec vos questions, chers auditeurs. Nous continuons sur le thème de la semaine dernière qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de vos réactions. La nouvelle loi sur le droit d'asile et le séjour des étrangers en France vient d'entrer est rentrée définitivement en vigueur depuis le 1er mars. Cette loi apporte des changements qui compliquent davantage la situation des étrangers en situation irrégulière, communément appelés des sans-papiers. Nous faisons aujourd'hui l'inventaire des changements apportés par la nouvelle loi sur les possibilités de régulariser sa situation administrative, autant pour moi, quand on n'a pas ou plus de titre de séjour. À présent, on va se plonger sur le téléphone 0155 07 58 00. On va commencer avec Moussa Kouyaté. Je suis marié avec une Française et j'ai eu un titre de séjour de 2 ans maintenant. Qu'on est séparés, j'ai un CDI, comment faire une nouvelle demande? C'est bien cela, monsieur Kouyaté, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Kouyaté.
Oui, voilà quoi. J'aime bien l'émission, je vous suis bien, ça fait plusieurs mois.
Merci.
Et voilà, c'est moi, ma situation est que je me suis marié avec une Française en Afrique. Mmh. Et sur ça, je suis venu en France, ici en Europe. Mmh. Et j'ai reçu les RTPC jusqu'à ce que j'ai obtenu une carte de séjour de 2 ans. Mmh. Et là, maintenant, il y a eu des conflits, tout ça. On s'est séparés. Mmh. Et là, je vis à part. Elle aussi, elle vit à côté. Mmh. Et on ne vit pas dans le même appartement.
D'accord.
Et maintenant, vu que... Un jour, il y a la petite fille qui m'a appelé, ils m'ont dit de venir me présenter. Je suis venu, ils m'ont dit, bon voilà, il faut amener tel truc et tout, qu'ils ont le loyer, tout. Et du coup, vu que j'habitais plus chez elle et tout, j'ai expliqué.
D'accord.
Et quand j'ai expliqué, ils m'ont dit, d'accord, là où j'habite maintenant, il faut que je transfère mes dossiers vers Paris, puisque j'étais dans un banlieue.
D'accord.
Et là, je suis sur la procédure de transfert de...
De dossiers.
Des dossiers. Mmh. Et je ne sais pas maintenant... Peut-être qu'il sera mon sort.
D'accord.
Quand il y aura le moment de renouveler le type de séjour que je possède.
Mmh, très bien, on comprend très bien la situation, M. Kouyaté. Oui. D'abord, quelques questions. Est-ce que vous êtes divorcé de cette personne?
Non, on n'est pas divorcé, puisqu'elle est partie déclarer déjà qu'on ne vit pas ensemble, et voilà, pour qu'elle puisse avoir toutes les aides qui a été coupées. Mmh.
D'accord. Mais est-ce que vous avez enclenché une procédure de divorce?
Je ne crois pas.
Non, vous ne devez pas croire ou ne pas croire, vous ne pouvez pas ignorer
votre
divorce.
Savoir.
On ne peut pas ignorer sa procédure de divorce. Peut-être de votre chef, vous voulez dire peut-être que si elle l'a enclenché, ça se pourrait qu'elle ne vous ait pas tenu au courant.
C'est ça.
Ma question était de savoir si vous étiez au courant, vous, d'une procédure de divorce que vous aurez donc tous les deux enclenché ou bien qu'elle aurait enclenché et qu'elle vous a mis au courant de ça. Donc à ce moment, vous n'avez aucune information concernant un divorce en cours devant une juridiction ou bien une procédure devant le juge aux affaires familiales en vue d'une non-conciliation. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure.
Non,
c'est juste une séparation de fait, mais le mariage existe toujours.
Oui.
D'accord, très bien. Et donc, la séparation est due à quoi?
La séparation est due à des conflits entre couples. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une séparation de corps de 6 mois. Et après, vu que entre deux personnes, pour que l'un ou l'autre ne puisse pas aller en prison, puisqu'il y a eu des affrontements.
Des affrontements, des violences, oui.
Ça, voilà, et sur ça, chacun a essayé de se mettre dans un côté pour ne pas aller en prison.
D'accord.
Pour 5 ans ou pour 6 ans.
D'accord, je comprends très bien. Mais est-ce qu'il y a eu des violences conjugales ou pas? Vous l'avez frappé ou insulté?
Oui.
Vous l'avez frappé?
Oui.
Est-ce qu'elle a porté plainte?
Non.
Elle n'a pas porté plainte?
Non.
D'accord. Pourquoi je pose ces questions? Si la rupture de la vie conjugale vous est reprochable, ça peut être un motif de non-renouvellement de votre titre de séjour. Il peut y avoir un problème. Parce que ce titre, on vous l'a donné parce que vous étiez conjoint d'un ressortissant français. Votre avantage, c'est que le mariage a eu lieu depuis le pays d'origine. Vous avez fait toute la formalité depuis le consulat pour venir ici. C'est votre cas, n'est-ce pas?
Oui.
Très bien. Ça, c'est en votre faveur. Ce n'est pas quelqu'un comme, par exemple, à qui on pourrait accuser d'avoir fait un mariage gris, bricoler un mariage parce que vous étiez en manque de papier. Vous, ce mariage, vous l'avez fait depuis le pays d'origine. Vous avez commencé à consommer ce mariage. Vous avez vécu ensemble avec cette personne. On est d'accord?
Oui.
Jusqu'à ce qu'il y ait un contentieux personnel. Ça veut dire qu'il allait loin jusqu'à pouvoir même donner sur, comme vous l'avez dit, des peines de prison avec une procédure pénale. Vous avez décidé de vous séparer de fait.
Oui.
Si elle n'a pas porté plainte, c'est tant mieux. Si elle avait porté plainte, ça pourrait constituer un obstacle pour vous si vous êtes l'auteur exclusivement de coups et blessures. Si elle vous a frappé et que vous l'avez frappé, là, c'est autre chose si vous avez porté plainte.
C'est violence réciproque.
Violence réciproque. Mmh. Mais néanmoins, dans ce cas de figure, chacun devrait porter plainte ou bien chacun devrait faire une main courante. Par contre, vous, à partir du moment où il y a une rupture, est-ce que vous avez pris la précaution de faire une main courante ou bien d'aller à la police pour dire qu'il y a une rupture de votre vie conjugale pour qu'on ne vous accuse pas plus tard d'avoir abandonné le domicile conjugal? Vous ne l'avez pas fait?
Oui, puisque avant de quitter le domicile conjugal, c'est pour à la police en disant que voilà, je préfère m'écarter et partir, parce qu'il y a eu tel truc, et voilà, une main courante. Pourquoi vous êtes venu ici, M. Kouyaté, pour que vous allez quitter votre domicile conjugal, on prend note, on prend compte.
Impeccable. Voilà, ça c'est très bien. Ça, vous l'avez fait, c'est très bien. Maintenant, il faut prendre la précaution, lors du renouvellement de votre titre de séjour, de préciser qu'il y a une rupture de la vie conjugale qui ne vous est pas reprochable, qui est due au fait qu'il y avait incompatibilité d'humeur rendant la vie commune intolérable.
Oui.
Ça, vous partez sur ça. À partir du moment où la vie commune est intolérable, parce que ça peut mener à des violences assez graves, vous êtes vraiment dans la bonne action de quitter ce domicile et de l'avoir signalé. Ça, c'est très bien. Et comme on risque de ne pas renouveler votre titre de séjour, parce qu'il s'est dit oui, c'est très bien, mais le prétexte qui a justifié la délivrance du titre de séjour n'existe plus, donc on va l'arrêter. Mais à partir du moment où vous avez un titre pluriannuel de 2 ans, ça veut dire que vous avez dû vivre ici et travailler un peu. Vous avez travaillé, vous dites, vous avez un CDI.
Oui.
Effectivement, vous devez demander de manière exprès à ce qu'un changement de statut d'études de séjour vie privée familiale que vous avez en ce moment au titre de séjour salarié, en prétextant cette fois-ci de votre travail, de votre insertion professionnelle. Et ça, c'est très possible. Il faudra le faire. Même parfois, il m'est arrivé d'aider quelqu'un qui était volontairement embêté par son conjoint, sa femme, qui voulait lui faire vivre un esclavage moderne, qu'il a refusé, et la femme a écrit à la préfecture pour dire que la rupture de la vie commune est consommée. On n'est plus ensemble, donc pour son titre de séjour. Ça, c'était une volonté manifeste de nuire à l'autre pour son titre de séjour. Mais j'ai anticipé à un autre niveau pour dire que voilà, cette rupture ne m'est pas reprochable et moi, je demande un changement de titre de séjour salarié. Il l'a eu parce qu'il y avait une lettre de motivation qui expliquait toute la situation. C'est ce qu'il faut faire avant le renouvellement et ça va marcher. Pour vous, ça va marcher parce que vous vivez là depuis, vous avez un titre de 2 ans et vous avez travaillé. Et pour l'instant, il n'y a pas une action pénale contre vous qui pourrait dire que donc, votre femme vous accuse de quelque chose qui est pénalement répréhensible. Donc, en plus, si vous voulez d'autres informations ou bien qu'on vous aide, dans le cadre de notre consultation associative, vous pourrez nous appeler tout à l'heure. On vous donnera les numéros de téléphone.
Voilà, merci monsieur Kouyaté pour cette question. En tout cas, allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. On va prendre une autre question. Nous avons donc Cédric. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai demandé un titre de séjour étudiant, puis des renouvellements, et là, je n'y ai plus droit. Alors, monsieur Cédric, vous êtes là ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour Cédric.
Bonjour Cédric, bienvenue.
Et bonjour.
Cédric
bonjour,
est merci. Étudiant, je crois.
Oui.
J'étais étudiant.
Ah, d'accord, ok. Donc, il veut changer de cap.
D'accord. Et Vous, expliquez-nous encore, on a compris globalement que vous étiez là depuis l'âge de 15 ans.
Oui, je suis arrivé à 15 ans, en 2002, par là.
D'accord.
J'ai eu un titre de séjour étudiant entre 2009 et 2012. Mm-hmm. Et après, je ne l'ai plus eu en 2012. Mm-hmm. Et j'ai fait une demande en 2017 qui a été refusée, en fait.
Une demande de quel type de séjour ? Vous avez demandé quel type de séjour ? Étudiant, toujours ?
Non, pas étudiant, vie...
Vie privée familiale ? Vie privée familiale.
Par rapport aux années que j'ai fait ici, en fait.
D'accord.
Qui a été refusée. Et en 2018, ils m'ont envoyé un QTF. Mm-hmm.
Parce que vous avez fait une nouvelle demande en 2018 aussi.
Oui, j'ai fait un recours.
Non, en fait, le QTF n'est pas la conséquence du recours. C'est le recours qui peut être la conséquence de le QTF.
En fait, je suis passé au tribunal là et là, j'ai reçu une
rejet.
Réponse par rapport à ça.
Vous avez reçu un rejet parce que le tribunal en fait, ne délivre pas de QTF. C'est le préfet qui délivre une QTF.
Oui, oui. Ouais, vous pouvez contester. Oui, le préfet m'a fait un QTF et voilà. J'ai contesté en fait, c'est ça.
Très bien. Et que vous n'avez pas eu gain de cause devant le tribunal, c'est cela, hein?
Si, en fait, le tribunal, ils ont annulé le QTF.
Ils ont annulé le QTF. Est-ce qu'ils ont donné injonction au préfet de vous délivrer un titre de séjour?
En fait, c'est ça le problème. Je ne comprends pas.
C'est-à-dire,
ils ont juste dit que le préfet doit réexaminer ma situation.
Très bien.
Dans un délai de 3 mois à compter de la notification du président du jugement.
D'accord. Et est-ce que le préfet vous a convoqué pour réexaminer votre situation administrative?
Non.
Est-ce que vous avez pris la diligence d'aller vers la préfecture pour demander à ce que votre situation soit réexaminée?
En fait, j'ai reçu ça la semaine dernière.
Ah, c'est frais, c'est récent. D'accord.
Oui.
Voilà, donc ça c'est frais. Donc dans un délai de 3 mois, ce que je vous conseille, à partir du moment où, donc on ne va pas étudier la situation antérieure parce que vous avez fait des procédures, vous êtes là depuis 15 ans, c'est pour ça que le tribunal a estimé que vous avez un ancrage ici en France. Déjà, vous êtes entré en France mineur, vous avez été scolarisé. Est-ce que vous avez eu le bac ou pas? Vous l'avez loupé?
Si, j'ai fait de la 4e au BTS.
Au BTS, en France?
Oui.
Le bac, vous l'avez eu en France?
Oui, je l'ai eu en France.
Très bien. Vous êtes entré mineur, vous avez eu votre bac en France. Vous avez plus de 10 ans de séjour en France, on ne peut pas vous refuser votre titre de séjour. Il y a eu un problème quelque part avec la préfecture ou bien il y a eu des éléments qu'on a dû ou pu vous reprocher, d'autres éléments que j'ignore. Mais si c'est exactement ce que vous m'avez dit, votre situation, on ne peut pas vous refuser. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le tribunal a annulé la décision du préfet qui emportait excès de pouvoir. Donc vous, ce que vous devez faire présentement, c'est d'aller à la préfecture avec la décision pour demander à ce qu'on vous délivre un récépissé le temps du réexamen de votre dossier. Et de demander à être convoqué. Mais ce qui va vous aider, contrairement à d'autres qui vont demander un titre de séjour pour la première fois ou un renouvellement, c'est la décision du tribunal. Cette décision a une force probante. C'est une décision du juge administratif qui est exécutoire. Même si le préfet décidait de faire appel, le préfet est tenu de vous convoquer. Donc maintenant, n'attendez pas à être convoqué. Allez-y. Parce qu'on vous dit 3 mois, si vous attendez, parfois ça peut même être au-delà de 3 mois, on peut vous oublier. Mm-hmm. Vous serez obligé de demander une exécution, de demander de faire une procédure en référé avec un avocat, tout ça, ça va être compliqué. Vous avez assez galéré par rapport à ça parce que vous avez fait d'abord en 2009-2012, on vous avait donné un titre que vous l'avez perdu, vous avez recommencé en 2017, c'est maintenant en 2018 que vous avez gain de cause devant le tribunal. Donc je vous conseille donc de faire cela. Et si ça bloque, vous contactez un avocat ou un spécialiste de la matière pour qu'il vous fasse un courrier adressé cette fois-ci au préfet directement et il y aura une issue. Mais n'attendez pas parce qu'il y a des personnes qui ont eu même gain de cause. Le tribunal a fait injonction à la préfecture de délivrer le titre de séjour. Ils ont convoqué la personne. Ils ont attendu pendant 8 mois, 9 mois, jusqu'à ce que la personne ait fait une injonction de communication de la motivation du silence gardé par l'administration. On lui a encore délivré une autre OQTF. Il devrait encore contester cette OQTF. Ça a dû prendre 8 mois. Vous comprenez, ça fait facilement 2 ans. Et vous n'avez pas besoin de ça. D'accord?
Ok, d'accord.
Voilà, faites cela et en cas de problème, donc il y aura mon numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Au niveau voilà. De notre association, on pourra vous accompagner.
Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cédric et surtout, bon courage. On va enchaîner avec une autre question, celle de Fofana. Je suis là depuis 3 ans et j'ai 2 enfants malades. Ils ne peuvent pas quitter le territoire à cause de leur maladie. C'est bien cela, monsieur Fofana ?
Oui, c'est bien celui-là.
Bonjour.
Alors, donnez-nous plus de détails, monsieur Fofana.
Je suis venu en 2016. J'ai eu l'hôpital de Créteil avant de pouvoir venir. J'ai payé tous les frais pour venir parce que mes deux enfants, ils sont malades, ils sont dépanosités, une maladie qui n'est pas soignée chez moi. Et on est arrivé à l'hôpital de Créteil en 2016, précisément le 21 septembre. Le médecin, on avait déjà rendez-vous. Donc, on est rentré en France le 18 septembre. Et là, le médecin a soigné, a vu le cas des enfants, a dit le cas est grave, c'est non assistant, c'est une personne qui est en danger, les enfants ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine. Donc, elle a fait tout ce qu'il y a à faire et on allait à la préfecture, ils nous ont donné un titre de séjour provisoire. Et là, ça fait presque, en septembre, ça va faire 3 ans, on est là, on a seulement que le titre de séjour provisoire, moi et puis mon épouse. On a
provisoire, c'est-à-dire un titre de 1 an, c'est ça?
Non, ils nous donnent des 6 mois. De 3 mois, 6 mois, 3 mois, 3 mois.
Ce sont des récépissés qu'on vous donne.
C'est ça? Oui, comme des récépissés.
C'est pas une carte de séjour. On vous donne des récépissés.
Non,
d'accord.
Des récépissés.
D'accord, très bien.
De 3 mois, de 6 mois, de 1 mois. Mmh. Et là, moi et mon épouse, on a pu avoir du travail. Ça fait 2 ans qu'on est en CDI, on travaille. Donc, je voulais demander, mes enfants sont scolarisés depuis 2016. J'ai 3 certificats de fréquentation, j'ai 2 avis d'imposition, plus le dernier qui va venir. Comment faire pour aller demander le titre de séjour de vie et famille privée?
Vie familiale, très bien.
Oui, vie et famille privée.
D'accord. Déjà, il faudra...
Vie privée, vie familiale.
Vie privée et familiale, voilà. Vie privée, vie familiale. Voilà. D'abord, il faudra préciser qu'on vous a donné ce titre de séjour pour des raisons médicales, en raison de l'état de santé de vos enfants, pas de vous. Vous êtes bien portant, vous et votre femme. D'accord?
Non, mon épouse aussi, elle n'est pas bien portant. Mon épouse aussi, elle est malade, elle est déclarée handicapée. Les 2 enfants sont déclarés handicapés.
En fait, ce que je veux savoir, vous m'avez dit que le titre de séjour a été délivré à vos enfants qui sont malades. Est-ce que votre épouse, ma question est... Est-ce que votre épouse a eu aussi un titre de séjour pour sa maladie ou bien par la maladie
non,
des enfants?
Non, elle n'a pas fait la demande. Parce que quand on venait, M. Tal, quand on venait, on ne savait pas que le cas de ma femme était grave. À partir de 2018, 2017, elle a fait des examens ici et qu'on a trouvé que son cas était grave. Mais elle n'a pas encore fait elle-même sa demande en tant qu'adulte malade.
Très bien, c'est ma question. Donc, vous avez répondu à la question. Donc, votre épouse n'a pas de titre de séjour par son propre chef. Elle l'a eu par le chef des enfants. On est d'accord?
Des enfants, oui.
Très bien. Donc, le fait qu'elle soit malade et qu'il n'y a pas de procédure, vous ne pouvez pas l'utiliser. Oui. Ça ne sert à rien du tout de l'utiliser, d'accord? Tant qu'elle n'a pas fait la procédure, il ne faut pas invoquer cet argument. Il y a des gens qui sont hyper malades tant que ce n'est pas constaté par un médecin. Et vérifié et constaté encore par le Collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'on appelle l'OFI, ça ne servira à rien du tout cette maladie, d'accord? Pour l'instant, tout son droit au séjour relève de la maladie de vos enfants comme vous. On est d'accord? Très bien. Je vous explique maintenant quels sont les droits par rapport à cela. La loi a changé fort heureusement. Il y a eu un changement de la loi, comme vous le savez, pour les étrangers malades. C'est la loi du 7 mars 2016, mais qui est entrée en vigueur pour ce qui concerne les étrangers malades le 1er janvier 2017. Maintenant, si vous êtes parent d'enfants malades, vous avez droit à des récépissés de séjour. C'est des demandes, c'est des titres de séjour de 6 mois renouvelables jusqu'à ce que la situation de l'enfant, de l'enfant ou bien des enfants soit définitivement améliorée ou que les enfants soient guéris. Le problème, c'est que ce sont des récépissés qu'on vous donne à vous, de 6 mois renouvelables. Ce n'est pas comme si vous étiez vous-même. Par exemple, votre épouse aurait intérêt elle-même à demander ce titre de séjour pour son propre chef. Elle aurait droit à un titre de 1 an. Alors que là, c'est parce que les enfants sont malades et que les parents, on considère que ce serait bien que les parents restent auprès de leurs enfants. Donc, ce titre de séjour, par nature, est précaire. Même si c'est l'adulte qui l'a, c'est encore plus précaire si l'adulte l'a eu de la part de l'enfant ou des enfants. C'est votre cas de figure. Ça veut dire qu'un jour, si on estime, malgré ce que votre médecin traitant, votre médecin personnel a dit, si l'OFI estime que la situation de santé des enfants est améliorée, ces enfants souffrent de drépanocytose et que le plateau médical dans votre pays d'origine maintenant peut traiter, peut accompagner les personnes souffrant de drépanocytose, vous allez perdre votre titre de séjour. Et vous savez bien que cette maladie, certes, on ne peut pas la soigner dans beaucoup de pays, mais suivant les formes, je pense que vos enfants ont la forme SS, ils n'ont pas la forme AS.
Oui. Non, il y a Ismaël qui est SC, comme sa maman, et il y a Ibrahim qui est SS.
D'accord, très bien. Donc ça peut migrer, effectivement. Donc pour Ibrahim, ça peut être très compliqué qu'on l'éloigne, sauf si votre pays maintenant, effectivement, il y a une évolution. Mais vous ne pouvez pas dépendre de cet aléa-là. Je pense que c'est ça la pertinence de votre question. Comment sortir de cette précarité administrative pour maintenant avoir un droit au séjour stable, quelle que soit l'évolution de la maladie? C'est ça votre question. Maintenant, vous travaillez. La loi vous permet de migrer de ce type de séjour vie privée familiale vers salarié. Autrement aussi, la loi vous permet de migrer de vie privée familiale pour raison médicale à vie privée familiale pour raison humanitaire. Et je pense que ça, ça peut être plus pertinent. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez écouté le début de l'émission, au titre de l'article L313-14 du Code des étrangers, le fait que vos enfants soient malades, le fait que vos enfants soient scolarisés ici, et c'est un motif humanitaire. Vous avez vécu pendant 3 ans ici aussi avec ces enfants-là. Ça, c'est plus plausible de brandir cet argument-là et de corroborer l'argument avec le fait que vous avez des moyens de subsistance parce que vous avez un travail. Et subsidiairement, vous demandez, à défaut d'un titre vie privée familiale pour raison humanitaire, vous demandez un titre de séjour pour raison salariée en brandissant vos CDD, vos CDI, vos contrats de travail. Okay. Mais il est plus pertinent pour vous d'avoir gain de cause avec une demande de titre de séjour vie privée familiale en tenant compte à la fois du fait que vos enfants sont malades, cette maladie est attestée, quel que soit l'avis dans ce cas de figure des médecins de l'OFI, on ne pourra pas vous reprocher une fin de non-recevoir. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le motif humanitaire. On ne peut pas aussi nier qu'un enfant qui est malade, qui a même une forme secondaire de drépanocytose, encore qui a aussi, qui peut migrer parce qu'il y a un de ses frères ou sa sœur qui a la forme grave, maladive, définitive donc de cette drépanocytose, on ne peut pas l'éloigner. Mais si vous restez dans ce schéma-là, effectivement, s'il y a une évolution médicale dans votre pays d'origine, ça peut causer un problème. Maintenant, l'avantage, c'est que aussi cet aléa, l'aléa est un peu levé parce que la loi que j'ai mentionnée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a dit nettement que même si le plateau médical dans votre pays d'origine vous permet d'avoir accès aux soins, si l'accès n'est pas effectif, ça veut dire que vous habitez à Tombouctou le plateau est à Bamako et que là-bas à Tombouctou, il y a des gens, vous êtes peul et qu'il y a des gens qui cherchent les peuls pour les tuer et que vous ne pouvez pas, vous avez peur pour vous, vous comprenez de quoi je fais référence. Je veux dire, s'il y a un problème de tension locale, s'il y a un problème matériel d'accès à ces soins, on ne peut pas demander à vos enfants et à vous de rejoindre votre pays d'origine. Mais pour moi, à votre place, j'aurais effacé cet aléa en demandant dès à présent, à travers le renouvellement de votre titre de séjour, un titre de séjour pour des raisons humanitaires. C'est plus plausible et en brandissant le fait que vous avez des moyens de subsistance.
D'accord? Donc, je dois demander le titre de séjour de l'humanitaire, c'est
voilà,
ça?
Ne demandez pas prioritairement changement de statut de vie privée familiale à salarié, mais c'est de vie privée familiale pour un motif qui est le motif sanitaire, à vie privée familiale pour un autre motif qui est le motif humanitaire. En brandissant à la maladie de vos enfants, le fait qu'ils sont scolarisés ici, que vous travaillez, vous participez à leur entretien et leur éducation et que vous avez des moyens pour les entretenir et que vous avez vécu ici pendant plus de 3 ans. Voilà la construction de votre courrier. De votre dossier que vous devez donc envoyer à la préfecture avant le renouvellement. Faites-le assez tôt. En cas de besoin, vous faites accompagner par quelqu'un qui a la compétence. D'accord?
D'accord, M. Tal, si je comprends bien, mais il faut que j'ai fait combien d'années ici?
Ah non, là...
Monsieur, vous pouvez le faire tout de suite. Pour la suite, on répond sur les questions pour que tout le monde en bénéficie.
On prend juste
si vous voulez
question.
Un examen personnalisé, vous pouvez nous contacter, moi, ou bien contacter quelqu'un d'autre. Mais vous a donné tous les ingrédients. Vous avez tous les ingrédients, monsieur.
Oui, donnez-moi vos numéros.
On vous le donnera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Voilà. Appelez tout à l'heure au standard de la radio africaine. Nous avons... beaucoup de questions. Merci, monsieur Fofana. Nous avons un autre Fofana. Cette fois, c'est Fofana Amara. Ma petite sœur est en France depuis 7 ans et son fils est scolarisé depuis 5 ans. Elle n'est pas autorisée à travailler. C'est bien cela votre question, monsieur Fofana Amara ?
Oui, c'est bien cela ma question. En fait, bonjour.
Alors, donnez-nous plus de détails. Hein. Allez-y.
D'accord. En fait, ma petite sœur est arrivée ici en 2012.
Il y a quelques petites frictures en ligne avec monsieur Fofana, c'est bien dommage. On va prendre Audrey qui vient de faire son entrée. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Oui,
bonjour.
Nous écoutons votre question, Audrey.
Je voulais juste demander, je ne connais pas vraiment le sujet du jour, mais je pense que c'est par rapport au...
Tout ce qui est droit au séjour, oui. Comment régulariser sa situation administrative en France.
Les éléments.
Exactement. Alors, donc, je vais vous demander, quand on a un titre de séjour d'une durée de 2 ans qui a moins de 2 mois d'expiration, est-ce qu'on a le droit de prétendre la nationalisation après 5 ans, bien sûr, de la
nationalisation? Oui, Audrey, vous en avez bien droit, au fait. Même si votre titre était expiré et que... on ne vous a pas donné une obligation de quitter le territoire français, tant que vous êtes en phase de renouvellement, parce que ce titre, vous allez le renouveler, vous allez demander le renouvellement. Oui. Vous avez déjà commencé ou bien vous allez bientôt commencer. En tout cas, vous avez intérêt à commencer cette demande de renouvellement parce qu'il reste que 2 mois. Vous devez le faire. Une fois que vous avez introduit votre demande de renouvellement, il n'y a aucun obstacle sur votre demande de naturalisation. À partir du moment où vous avez rempli les conditions basiques, 5 ans, c'est le principe. Maintenant, on l'a dit, on l'a traité plusieurs fois, c'est le principe. Parfois, c'est, pour certaines personnes, c'est 3 ans, pour d'autres personnes, c'est 2 ans. En fonction de votre nationalité, si votre pays utilise le français comme langue officielle et que vous avez été scolarisé au moins pendant 5 ans, il n'y a pas de conditions de stage. Vous pouvez automatiquement demander, si vous remplissez les conditions matérielles, ça veut dire de travail sur la période de référence de 12 mois, si vous avez des revenus, effectivement, rien ne vous empêche d'introduire cette demande. Et l'obstacle de la fin d'études de séjour n'existe pas en matière de naturalisation. C'était ça votre question. La réponse, elle est ferme et définitive.
Oui, parce qu'en fait, quand on a parlé, je comptais demander la durée de 10 ans. Et donc, quelqu'un m'a dit comme ça, non, mais il ne faut pas perdre du temps. Vas-y, mais après, il y a beaucoup d'autres qui me disent.
Il y a toujours des spécialistes.
On vous a dit 10 ans.
Donc, ils m'ont dit comme ça, non, il faudrait que tu aies à moins de 6 mois parce que sinon, ça ne va pas le faire.
Ah non. Il faut conseiller à cette personne d'arrêter de conseiller ça à des personnes.
Il faut jamais écouter des gens qui vous parlent comme ça.
Monsieur Tal a dit que ça c'est très dangereux, c'est des pseudo-experts.
C'est très dangereux.
C'est des pseudo-experts qui divulguent des informations qui ne sont pas vérifiées.
C'est pour ça qu'on est heureux de vous suivre, parce que vous nous dirigez, c'est très bien.
Oui, donc voilà. Donc retenez ça et partagez l'information autour de vous. C'est ça l'intérêt de cette émission.
Exact.
C'est donc de d'éduquer au niveau du droit, de vulgariser l'accès au droit avec les vraies informations.
Voilà.
Pas des informations plus ou moins vraies ou bien. Ça n'existe pas en France.
N'écoutez pas les gens dans la rue, écoutez les spécialistes.
Peut-être que c'était en Afghanistan, hein. Peut-être ce qu'il vous a dit, c'est la loi en Afghanistan, mais ce n'est pas en France.
Merci beaucoup Audrey, on va essayer encore une fois de prendre Fofana. Est-ce qu'il est en ligne cette fois?
Oui, je suis là.
Alors,
bonjour,
Phil. Vous avez 2 minutes très rapidement parce que nous n'avons plus de temps, allez-y.
Bonjour Phil, bonjour Maître Tal.
Monsieur Aliou Tal, je m'appelle Aliou Tal. Il faut bien dire Monsieur Tal, j'insiste pour ça parce qu'il y a des confusions pour d'autres Maître Tal. Voilà. Aliou Tal, juriste.
Parce que,
ravi de vous avoir.
Il y a des Tal qui apparaissent comme ça sur Internet. Voilà, alors, fais attention, voilà. Allez-y.
C'est vrai. En fait, le problème de ma sœur, c'est qu'elle est là depuis 2012 et elle n'avait pas des titres de séjour jusqu'à ce que son fils arrive en 2016 en France. Et donc, quand son fils est arrivé en 2016, vu que le père de l'enfant a un titre de séjour, et l'enfant a eu un titre et une carte circulaire de 5 ans. Mm-hmm. Et donc, elle a été basée sur ça. Et l'enfant aussi va à l'école depuis 2016.
Depuis 2016,
donc, depuis 2016. Et elle a fait la demande en décembre dernier.
Voilà. 2018. Alors, nous avons donc 1 minute pour vous répondre. Est-ce qu'on aura le temps, Aliou Tal?
La question. On
lui a donné un titre de séjour.
Posez-nous après la question, on va y revenir. Donc, je vous laisse exposer. Donc, tant qu'il est temps, on prend les informations. Et il faut être là avec nous la semaine prochaine. Parce que vous allez m'exposer la situation. On va commencer l'émission avec vous. Et donc, quelle est la question pour votre sœur?
La question, ils lui ont donné un récépissé de 6 mois ne l'autorisant pas à travailler. Mm-hmm. Il va s'expirer dans 2 mois. Elle voudrait savoir quelles sont les démarches à suivre pour qu'elle ait droit à un titre de séjour.
Alors, on vous donnera donc la réponse la semaine prochaine. On commencera avec vous. Alors, pour tous ceux qui veulent justement des consultations privées avec Aliou Tal, le numéro de téléphone. Voilà, dans le cas de l'association, c'est au 06 16 05 45 51. À savoir que mercredi prochain, nous serons écoutés à Abidjan sur 91.1 Africa Radio. Ce sera un droit et nous spécial Côte d'Ivoire. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer un SMS au 06 16 05 45 51 la semaine prochaine. Le droit
avec
est nous.
Africa Radio.
Voilà, ce sera avec Africa Radio. Nous serons donc à Abidjan sur 91.1. C'est la fin de cette émission. Merci Aliou Tal.
Merci Phil.
Le droit est nous dans la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa numéro 1.